Eh bien, le RAC a mené au cours de l'automne dernier et de l'hiver une vaste étude sur comment ça va au niveau du programme des aides visuelles. Et pour nous parler des résultats de cette vaste consultation, ben, j'ai Laetitia Larabie, qui est travailleuse communautaire au RAC et qui a travaillé sur cette étude. Alors, bonjour Laetitia.
Bonjour René.
Donc, Laetitia, d'abord, pourquoi une étude à ce moment-ci sur le programme des aides visuelles?
Bah, faut se rappeler que le programme sur les aides visuelles, il a été révisé pour la dernière fois en 2011. Donc, ça commence à dater, étant donné que la technologie évolue rapidement. On voulait un petit peu mesurer déjà l'impact de ce programme dans la vie des gens qui ont une limitation visuelle. On voulait s'assurer de vérifier s'il était toujours conforme à leurs besoins. Donc, le but, c'était d'aller vérifier s'il est approprié aux besoins au niveau de son contenu, au niveau de l'accès aux aides, puis au niveau de ses modalités d'application. Parce que parfois, on entend dire que, dépendamment des régions, il n'est pas toujours appliqué de la même façon. Donc, on voulait un petit peu vérifier tout ça.
Et on va aller dans le vif du sujet. Quels en sont les résultats, et je dirais là, les résultats les plus pertinents ou peut-être les plus inquiétants?
Ben, les résultats de la consultation, déjà, on est très content parce qu'il y a 177 personnes qui ont répondu, ce qui est un record pour le RAC. Donc, on remercie toutes les personnes qui ont participé. Ce qui ressort le plus, c'est qu'il y a pas mal de restrictions au niveau de l'accès aux aides. Et il y a des lourdeurs bureaucratiques assez importantes qui limitent aussi l'accès à ces aides visuelles. Donc, au niveau des restrictions les plus choquantes qu'on peut nommer, c'est par exemple le fait qu'il existe des exclusions au niveau du statut social de l'usager. Donc, par exemple, si vous êtes une personne qui est à la retraite ou qui est sans emploi ou qui n'est pas aux études ni au travail, ben vous n'avez pas accès à certains types d'aides visuelles, comme par exemple des afficheurs braille, des mises à jour de logiciels adaptés ou des GPS adaptés. Donc, nous, on a 32% des répondants qui nous ont dit qu'effectivement, ils n'avaient pas pu avoir accès à certaines aides visuelles en raison de leur statut de personne retraitée ou de personnes sans emploi. Et c'est problématique parce que ça les empêche de réaliser leur activité de manière autonome, sécuritaire. On avait par exemple une dame qui est à la retraite, qui fait de l'aide à la lecture dans les écoles et qui quand son afficheur braille va briser, bah elle sera plus éligible pour recevoir un autre afficheur braille. À ce moment-là, elle ne pourra plus faire son bénévolat. Okay. Donc, quand on a une déficience visuelle, un afficheur braille, quand on est brailliste, c'est pas un luxe. Donc, non, ça, c'est un gros problème. Il y a aussi des restrictions importantes au niveau de l'accès à certaines aides. Vous savez qu'il y a des aides visuelles qui sont renouvelables à une fréquence déterminée. C'est le cas, par exemple, des cannes blanches puis des embouts de cannes blanches. Donc, on a droit à 2 cannes blanches par année et 3 embouts de rechange pour les cannes blanches. Cependant, il y a plusieurs personnes qui nous disent que c'est pas suffisant. Et donc, quand elles ont épuisé leurs 3 embouts de canne blanche, bah, ça peut arriver quand elles commandent une canne de rechange, elles se font livrer une canne sans embout. Donc, une canne sans embout, c'est inutilisable et c'est pas du tout sécuritaire. Donc, ça fait partie des restrictions qu'on a notées. Et puis, ça, c'est juste des exemples. Hein. Si vous lisez le rapport de recherche, il y en a beaucoup d'autres. Okay. Il y a aussi toute la question de la lourdeur bureaucratique. Donc, quand vous demandez une aide visuelle, faut que vous contactiez votre centre de réadaptation, faut que vous fassiez une demande. Suite à votre demande, on va l'évaluer, on va vous assigner un intervenant. L'intervenant va vous rappeler pour faire une réévaluation. Ensuite, il fait la demande à la RAMQ. Et vous êtes même pas sûr de recevoir votre aide visuelle parce que c'est pas dit que la RAMQ accepte la demande. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont découragés par l'organisation des services, qui trouvent que c'est trop compliqué. Les intervenants aussi ont beaucoup de démarches à faire. Donc il y a certaines personnes qui renoncent à demander certaines aides visuelles.
Est-ce qu'on dénote dans l'étude ces problématiques-là, entre autres, bon, que ce soit la lourdeur bureaucratique ou les restrictions? Est-ce que ça se démarque plus en région ou c'est équivalent, que ce soit grand centre ou en région?
Ben, c'est sûr que la difficulté qu'on a, c'est que, puis ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il soit mis en place, c'est d'harmoniser un peu le processus quand on fait une demande d'aide visuelle. Ça se passe pas toujours de la même façon, dépendamment des régions, dépendamment des centres de réadaptation. Mais on nous a pas tellement rapporté, je pense pas qu'on ait croisé les données au niveau de savoir est-ce que c'est une problématique qui se retrouve plus par région, parce que ça, c'était la question des lourdeurs bureaucratiques, c'était plus des réponses qualitatives que quantitatives. Donc ça, c'est quand les gens, il y avait des questions ouvertes, ils pouvaient répondre, puis c'est là souvent que c'est venu comme réponse. Puis c'est une chose aussi qu'on sait parce que nous, dans le cadre du comité réadaptation, ça remonte beaucoup là de nos membres, la question des lourdeurs bureaucratiques.
Okay. Et le RAC, toujours dans son optique d'aider, de trouver des solutions, peut-être nous donner l'eau à la bouche un petit peu, parce que vous parlez d'une nouvelle offre de services au niveau, vous parlez d'une nouvelle offre de services au gouvernement du Québec en matière de réadaptation.
Oui, pendant plusieurs années, on a travaillé, on a rédigé une offre de service. C'est une offre qui a été rédigée donc par les personnes concernées, par des personnes qui ont une limitation visuelle, pour des personnes qui ont une limitation visuelle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nous, on remet vraiment les besoins de l'usager au centre de cette offre de service. Ce qui, en principe, est déjà le cas quand on lit le cadre de référence du gouvernement. Sauf que nous, on le sait que dans la pratique, sur le terrain, ce qui arrive présentement, c'est que les usagers, on leur dicte les services qu'ils doivent recevoir. Puis ça, c'est dû entre autres au fait que on ne présente pas aux usagers toute la gamme de services en réadaptation auxquels ils ont droit. Donc forcément, quand vous savez pas quels sont les services auxquels vous avez droit, quelles sont les aides visuelles disponibles, vous pouvez pas les demander à quelqu'un qui arrive pour la première fois dans un centre de réadaptation, qui a aucune idée comment ça se passe. Moi, des fois, ça m'arrive souvent de parler avec des gens qui ne savent même pas que quand on perd la vue, on peut continuer à utiliser un ordinateur. Bon, alors, comme ils savent pas que ça existe, ils peuvent pas le demander. Et les intervenants, pas toujours, mais dans certains cas, ils font pas le travail de dire à l'usager, voilà ce qui existe. Donc, nous, on insiste vraiment sur ça dans notre offre de service, que la gamme de services soit vraiment présentée aux usagers pour qu'ils puissent, ça puisse répondre à tous leurs besoins. Ensuite, ce qu'on propose, c'est que les dossiers demeurent actifs, ce qui était le cas avant 2015, mais depuis la réforme de 2015, on fonctionne par épisode de service. Donc, quand on reçoit les services d'un centre de réadaptation, une fois que la prestation de service est terminée, on ferme le dossier. Ça fait qu'à l'avenir, si jamais vous voulez recevoir d'autres services, faut qu'on réouvre votre dossier.
Ce qui ralentit le processus.
Ce qui ralentit considérablement le processus, parce qu'il faut repasser par une demande de service, avec l'accueil et l'orientation, une évaluation. Donc là, nous, on propose que les dossiers demeurent actifs, ce qui se faisait, comme j'ai dit, avant. Et puis aussi, on propose qu'un intervenant pivot soit disponible en tout temps pour supporter les usagers. Donc, ce qui ferait que quand l'usager aurait une question ponctuelle, il pourrait contacter son intervenant pivot qui ferait la référence appropriée. Parce que là, ce qui arrive, c'est que vous avez une question ponctuelle en informatique adaptée, il faut que vous repassiez par une demande de service, par tout le processus. Tout ça pour une petite question. Donc, ça fait perdre beaucoup de temps. Et puis, l'intérêt aussi d'avoir un intervenant pivot disponible en tout temps, ça permettrait à cet intervenant-là de faire une mise à jour de dossier de l'usager, même si l'usager n'a pas reçu de service pendant plusieurs années, aux 2 ans, il ferait une petite mise à jour pour vérifier si les aides techniques sont toujours appropriées, et puis des choses comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on propose aussi. On propose de donner plus de latitude. Par exemple, on sait qu'il y a, malheureusement, en ce moment, il y a un manque de spécialistes dans tous les domaines, orientation et mobilité, réadaptation, déficience visuelle, des optométristes en basse vision, il en manque un peu partout. Donc, nous, on propose de mettre en place des incitatifs pour aller chercher ces spécialistes-là, pour mobiliser des ressources quand l'usager doit avoir affaire à l'extérieur parce que l'établissement pourrait pas donner le service, ben, de s'assurer que l'établissement défraye les coûts. C'est le cas, par exemple, quand on a besoin d'un psychologue, d'une travailleuse sociale. Donc, que ces services-là demeurent accessibles quoi qu'il en soit. Ensuite, ce qu'on propose aussi, ce qui est intéressant, pour répondre justement à ce dont on parlait par rapport aux aides visuelles, les exclusions fondées sur le statut social, nous, on propose que vraiment ça se soit éliminé, qu'au niveau de communication en informatique adaptée, bah, tous les usagers aient droit à tous les services dont ils ont besoin, peu importe leur statut et sans priorisation d'aucune sorte.
Alors, je présume que cette étude, des résultats de cette consultation ainsi que l'offre de services dont tu viens de nous parler, je présume que les prochaines étapes, ben, c'est de faire en sorte de faire des démarches auprès du gouvernement du Québec.
Oui, on a déjà, alors il y a plusieurs années qu'on a envoyé déjà cette offre de service-là à nos contacts au M3S. Mmh. Entre-temps, la COVID est passée par là, mais on a confirmation qu'elle a été reçue et qu'elle a été lue. Donc, on espère vraiment que dans les prochains, peut-être après l'été, on va pouvoir faire des représentations là auprès du gouvernement pour pouvoir défendre cette offre de service.
Ben, Laetitia, on te remercie beaucoup et on espère que cette consultation, ben, va porter ses fruits. Merci beaucoup.
Merci à vous.